Chapitre 2e. Cette année-là, une épidémie terrible fondit sur l'île comme un ouragan et emporta les plus jeunes, les plus forts. De pareils fléaux surviennent rarement à Bréa, mais quand par hasard ils éclatent, les ravages sont rapides parmi cette population ramassée sur un étroit espace de terre, loin de tout secours. Contre l'habitude, les médecins furent pourtant appelés de la côte. Ils déclarèrent qu'un préservatif très simple aurait pu conjurer le mal. Parole cruelle, qui ne servit qu'à redoubler le désespoir des familles dont il n'empêchait pas les enfants de mourir. Ce fut au foyer, jusque-là privilégié, des Cinq-R, que la mort vint s'asseoir avec le plus de persistance. Elle frappa d'abord l'objet de la prédilection du vieux Leneux, sa fille aînée, déjà grande, qui lui rappelait par les traits, le caractère, le nom et sa jolie voix fraîche, une mère dont il adorait le souvenir. Il l'avait quittée bien portante et gaie pour aller faire sa tournée annuelle sur la grande terre. Tout souriait à Job depuis quelques mois. Les bals de matelots sur les tertres avaient repris de plus belle. Un certain nombre de garçons hardis et de joyeuse humeur s'étant trouvés réunis dans l'île à la suite de voyages au long cours. Ces scandales, selon l'expression du recteur, avaient été pour Job une source de succès et de profit, et il rapportait de son excursion, plus fructueuse encore, des présents pour chacun, une belle croix d'or entre autres à la petite main arite. Sa surprise fut grande en débarquant de ne pas la trouver sur la jetée avec ses frères. La porte de sa maison ne s'ouvrit pas d'elle-même, aucune bienvenue ne lui fut faite. Lorsqu'il entra, saisi de pressentiments sinistres, Marie gisait sur son lit, déjà méconnaissable. « Ah ! » soupira-t-elle faiblement. « Je savais bien que tu viendrais. » Il lui remit, sans pouvoir parler, la croix d'or qu'elle avait tant désirée. Mais l'enfant secoua la tête. « Va, je ne la porterai point, » dit-elle à Janie, qui veillait à son chevet. « Tu la prendras pour ta petite. » Quelques minutes après, s'adressant à son père, « Je t'ai attendu. Je voulais encore une fois entendre ton violon. » Et le pauvre Job, hors de lui, joua tant qu'elle le voulut et tout ce qu'elle voulut. Il joua une partie de la nuit comme jamais il n'avait joué, sans savoir ce qu'il faisait, en proie à une fièvre ardente. Les larmes ruisselaient sur ses joues, mais l'enfant ne les voyait pas. Dès qu'il s'arrêtait, elle répétait « Encore !» comme si cette musique l'eût emporté plus vite en paradis. À l'aube, Job, épuisé, avait laissé tomber son archet, et le premier rayon du soleil se posa sur les lèvres, entr'ouvertes par l'extase, de Maharit, qui ne respirait plus. Le guetteur et bien d'autres me l'ont dit depuis, dès ce moment, Job eut l'esprit chaviré. Aucun des désastres qui suivirent ne le tira de sa stupeur, qui ressemblait à de l'hébétement. Les progrès de la maladie avaient été chez Marit d'une si effrayante rapidité que l'on n'avait pas eu le temps de songer au salut de ses petits frères en les éloignant du foyer de contagion. L'un après l'autre, ils tombèrent comme de pauvres pâquerettes fauchées du même coup. Dans cette crise, Janie s'acquitta envers ses bienfaiteurs par un acte de suprême dévouement. Elle exposa la vie de sa propre fille pour passer les jours et les nuits dans cette demeure infectée. Après avoir enseveli les enfants, Janine dut soigner la mère. Il semblait que celle-ci n'eût attendu pour s'aliter à son tour que le moment où elle ne pouvait plus être utile. Sans doute elle ne se sentit pas la force de survivre à ce qu'elle avait aimé le plus au monde. « Pardonne-moi, mon pauvre Job, » disait-elle à son mari, « mais je ne peux pas demander au bon Dieu de rester ici. Même auprès de toi, je serais trop malheureuse. » Pour elle, l'agonie fut longue et le délire épouvantable. Le recteur l'assistait, et chacune de ses visites redoublait l'agitation de cette pauvre âme au lieu de la calmer. Elle n'avait plus de connaissance qu'elle criait encore. « Job, c'est ton violon qui nous a tous perdus. C'est lui qui a tué les enfants. C'est par lui que je meurs. Chasse le démon qui est là. » Les reproches, proférés incessamment contre lui par cette bouche si douce d'ordinaire, augmentaient l'horreur des nuits de veille et de désespoir durant lesquelles le pauvre Job appelait la mort, qui ne voulait pas le prendre après lui avoir tout ôté. Non seulement il lui brisait le cœur, mais il troublait sa conscience. Il se rappelait trop que sa femme avait toujours nourri une sorte d'antipathie contre ce violon qui cependant apportait l'aisance au logis. « Quitte à gagner moins, » lui disait-elle autrefois, « tu devrais de préférence cultiver la terre. Le monde te respecterait davantage, tandis que tu ne fais que le réjouir et le dissiper comme ferait un baladin. » Le travail des bras avait de bonne heure, ainsi qu'il arrive pour presque tous les paysans, restreint l'horizon de sa pensée. L'exaltation de son mari lui faisait l'effet d'une faiblesse presque maladive. Elle n'aurait pas su dire quelle différence existait entre son violon et le biniou le moins mélodieux. Souvent Job avait éprouvé du regret, presque de l'humiliation, en voyant que ce qu'il avait de meilleur était si mal compris. Mais sa femme l'en consolait par une affection qui, l'eût-elle jugé mieux, n'aurait pu être plus forte. D'ailleurs, peu lui importait qu'on le traitât de balada, puisque pour Marit, il était un grand homme. Sa fille l'admirait, lui donnait raison, se faisait son élève, mais désormais, hélas, Marit était loin. Et les terreurs superstitieuses auxquelles il avait répondu naguère par de faciles plaisanteries empruntaient au râle de la mort une effrayante solennité. Aussi, quand sa femme eût été rejoindre ses enfants au cimetière, Job, affolé par tant de coups répétés, s'accusait-il d'être leur meurtrier à tous. En vain, la Janie, qui conservait sa raison dans l'excès de la douleur, habituée qu'elle était à souffrir et à se résigner, s'efforça-t-elle de l'arracher de ses sombres chimères. Ils la fitèrent avec une dureté qui prouvait qu'il n'était plus lui-même. « Va-t'en, dit-il, pourquoi restes-tu là, puisqu'ils n'y sont plus? Ta vue me les rappelle et ne me fait que du mal. » La pauvre fille, qui venait de remettre en ordre cette maison désormais silencieuse et vide, tout en récitant son chapelet, ne put retenir un sanglot. « Moi aussi, pourtant, dit-elle, je perds tout, puisque je n'avais au monde que vous autres. Tu as ton enfant, toi, répliqua-t-il, d'un ton qui ressemblait à celui du reproche, et, voyant que malgré son ordre, elle hésitait à sortir, Job sortit en courant. Où allait-il? Le malheureux n'en savait rien. Mais la mère était à deux pas, brillante et impassible, comme s'il n'avait rien perdu, prête cependant à lui offrir la seule consolation, le seul refuge dont il voulut, un tombeau. Deux bras vigoureux l'arrêtèrent, et la voix grave du recteur murmura au bord même de l'abîme dont elle semblait sortir. « Que veux-tu donc ?»« Les retrouver. »« Tu prends le mauvais chemin ?» reprit la même voix sans s'émouvoir. « Le chemin de l'enfer !» M. Clèche avait une façon de prononcer ce mot qui eût agi sur des nerfs moins surexcités que ne l'étaient ceux de Job. Ce dernier n'avait jamais été un esprit fort. Les gens d'imagination ne le sont guère. Lors de sa prospérité, il vibrait aisément au moindre souffle comme les cordes mêmes de son violon. Et maintenant, la douleur le laissait sans plus de défense qu'un petit enfant. « Que faut-il donc faire ? » demanda-t-il en regardant son ancien ennemi avec la foi du naufragé. Les hommes de la trempe du recteur, ne voyant de chaque chose qu'un seul côté, savent tout résoudre ou plutôt tout trancher en un clin d'œil. Celui-ci avait des inspirations hardies et soudaines, qu'il attribuait assez gratuitement au ciel et qu'il acceptait d'emblée sans discussion comme venu de là. « Suis-moi, » dit-il. M. Clèche prit le bras de Job, qui se soutenait à peine, et le tenant ferme, car pour rien au monde il n'eût voulu laisser échapper cette proie, le ramena vers sa demeure. Lorsqu'il l'eut fait asseoir sur le banc du petit jardin, « Tu as péché, dit-il, par révolte, par orgueil. Le reconnais-tu enfin ?» Job ne répondit pas. Il pensait aux soirées où il s'était assis sur ce même banc, la petite main de Marit dans la sienne, pour contempler la mer avec elle et lui enseigner des chansons. « Si les yeux de ton âme sont encore fermés au point que tu ne comprennes pas pourquoi tu es châtié, es-tu capable au moins d'un grand sacrifice ?» Pour revoir mes enfants, ma bonne femme ? Demanda Job, que poursuivait une idée fixe. Oui, pour n'être pas séparé d'eux pendant l'éternité. L'éternité ? Répéta Job. L'éternité sans embrasser ma petite Marit. Es-tu prêt au sacrifice ? Reprit le recteur. Tu la reverras, au nom de Dieu, je te le promets. Ajouta-t-il avec une intensité de conviction qui transfigura momentanément toute sa personne. « De quel sacrifice parlez-vous donc ?» demanda le pauvre père. « Il s'agit de brûler ce maudit violon, de chasser le diable, comme te l'a ordonné ta femme mourante. »«
Mon violon ? » ?»«
Allons, viens !» dit le recteur, pénétrant dans la maison, où il se mit en devoir de ranimer les cendres à demi-éteintes. Bientôt pétilla un grand feu que Job contempla d'un œil fixe, en pensant aux joyeuses soirées d'hiver où sautaient sous le manteau de cette même cheminée les crêpes de blé noir qu'aimaient tant ses enfants. Il tressaillit cependant quand le recteur leva la main pour prendre le violon accroché au-dessus.
« Non, non,
ne le touchez pas. Il est resté là depuis la nuit où il a aidé Marie à mourir. »
En lui faisant oublier Dieu, s'écria le recteur farouche, ne vois-tu pas, malheureux, que là encore le diable venait disputer au ciel les dernières pensées de ta fille et que tu t'es l'instrument même de la tentation ?
Eh bien, s'il a damné Marit, je veux être damné avec elle et non sauvé par vous, dit Job avec énergie. Le recteur sentit que son zèle l'avait emporté trop loin, qu'il venait de faire fausse route.
Tu ne me comprends pas, ajouta-t-il en s'adoucissant.
Dieu a triomphé dans ce combat et ta fille est un de ses anges. Mais si tu l'avais aimée comme tu le dis, tu ne voudrais pas que le violon qui a charmé son agonie servît jamais à un autre usage.
Ce raisonnement touchait un point vulnérable. Job réfléchit une seconde, puis avec exaltation.
« Vous avez raison, dit-il, je n'en jouerai plus pour personne. Mais à quoi bon le brûler ?»«
Parce que tu manquerais à ta résolution, dit le recteur, parce que le flot pousse le flot, parce que tu oublieras, étant homme de chair et de sang. »«
Oublier ? » s'écria Job avec indignation. « Oublier mon chagrin ? Que rien ne m'est plus au monde ? » ?»«
Si rien ne t'est plus, qui t'empêche de brûler ce morceau de bois ?» riposta la logique implacable du recteur.
Pour Job, ce n'était pas un morceau de bois, c'était son unique ami. Mais la pensée qu'on put croire cet ami capable de le consoler lui inspira une sorte de fureur.
« Brûlez-le donc vous-même »
dit-il en se détournant. Le recteur n'attendit pas qu'il se ravisât, il lança dans le brasier l'instrument complice de Job. Les cordes craquèrent et se rompirent avec le bruit d'un sanglot humain. Job tremblait de tous ses membres. Il lui semblait assister au meurtre d'une chose vivante, ou plutôt, il lui semblait que son âme même le quitta. Son visage prit une expression qui fit croire à M. Clèche qu'il devenait fou, ce qui valait mieux d'ailleurs que de rester criminel. « Mon fils, » commença le prêtre, cherchant des paroles pour le remercier et lui rendre courage, « mais que lui dire ?» Job était tombé lourdement à genoux et battait de son front la pierre de l'âtre où son dernier amour achevait de se consumer. Longtemps, le recteur resta près de lui à l'exhorter de son mieux, mais en vain. Puis il appela un voisin auquel il enjoignit de veiller sur le malheureux qui semblait plongé dans une sorte d'anéantissement. « Facile à expliquer, » dit-il, après tant de nuits sans sommeil. Les cendres du violon s'amassaient dans ce foyer qui avait été le foyer domestique. En sortant, M. Clèche lui jeta un regard superbe comme à Satan terrassé. Puis, sous un grain qui le trempait jusqu'aux os, par une froide nuit d'automne, il regagna son presbytère, insensible à tout ce qui n'était pas la victoire qu'il venait de remporter. Le lendemain, on ne parlait à Bréa que de la conversion de Job. Bien des curieux eussent voulu s'en assurer par eux-mêmes, mais la porte de la maisonnette en deuil ne s'ouvrait plus que devant le recteur, qui chaque jour allait poursuivre son œuvre. Malheureusement, les lumières chez lui n'égalaient pas le zèle, et en conduisant Job à la pénitence, il le menait droit à la folie. Il lui disait quelle macération, quel renoncement sublime avait expié les blasphèmes, les voluptés de toute une vie, les grandes leçons données sur le sol bréatais même par des saints qui avaient fui le monde. Saint Modé, dont on montre encore l'oreiller, un roc, dans l'îlot qui porte son nom, Saint Judoc, Saint Guénolé, qui firent leur thébaïde de Lavray et de Béniguet. Le recteur parlait ainsi au nom même des morts bien-aimés dans la compagnie desquels Job vivait sans cesse et qui semblait lui crier d'en haut « Il dépend de toi de monter jusqu'à nous ». S'il se fût agi de pratiquer des vertus simplement ordinaires, Job fut peut-être resté sourd. Il était de ceux qui, en toute chose, poursuivent l'oiseau bleu et qui ne savent être rien à demi. Ce qu'il y avait de violent, de merveilleux, d'excessif dans les exemples offerts à son imagination le séduisit surtout. Quelquefois, cependant, le langage mystique de la religion était encore étouffé dans son cœur par les sons imaginaires d'un violon qu'il prenait pour le spectre du sien et dont les cordes filées d'or avaient une diabolique douceur. Pour échapper à cette hallucination, il s'avisa de quitter sa maison trop pleine de souvenirs. Ceux qui le virent passer un soir le trouvèrent singulièrement changé. Son visage était hagard. Il portait un petit paquet de linge à la main et poussait devant lui ses deux vaches. D'anciens amis l'abordèrent, mais il ne parut pas les voir et continua son chemin dans la direction de Lavray. « On l'aurait cru pris de vin, dit le guetteur,
qui, lui ayant adressé la parole avec son indiscrétion ordinaire pour savoir où il allait, obtint de lui cette unique réponse « Je veux vivre comme Saint Judoc, puisqu'on me défend de mourir. » Du côté de l'est se dresse une sorte de pic désolé que rattache à l'île principale une longue chaussée en grande partie détruite. Cette chaussée servait dans un temps qu'il serait difficile de déterminer, avant peut-être les grands incendies ordonnés par le comte de Kent à relier l'église de Lavray au château de Bréa, qui n'est plus qu'un pan de mur croulant. À marée haute, Lavray forme un îlot à part où le granit est d'un autre ton que celui de Bréa, plus pâle, pailleté de mica, sillonné de veines de marbre qui de loin ressemblent aux neiges arrêtées dans les crevasses. Pas un arbuste dont l'ombre puisse reposer les yeux éblouis par la réverbération du sable des grèves, véritable poussière d'albâtre. De l'église, il reste quelques pierres cimentées en petits appareils romans et entre lesquelles s'insinuent, se nouent, s'incrustent, avec les ondulations d'un serpent et l'audace d'un insolent parasite, le plus beau lierre que j'ai jamais vu. Un archéologue aurait grand-peine à en déterminer le plan primitif, et les lapins y prennent leurs ébats comme dans tout le reste de l'île où on les chasserait facilement à coups de bâton. La hutte que se construisit le violoneux dominait les escarpements lointains de l'île Blanche, de Logodec, de Saint-Rion, d'Arieure, contre lesquels les vagues s'élancent turbulentes pour reculer aussitôt d'un grand bond, comme si elles se fussent blessées aux brisants qui les fouettent en aigrette neigeuse. Devant cet horizon sévère, je retrouvais Job chantant pour ses enfants et sa femme trépassée, pour lui-même, qui attendait la délivrance et la réunion, un perpétuel miserere. Voici comment eut lieu notre seconde rencontre. J'avais profité d'une de ces matinées de février qui ont tout le charme du mois de mai pour entreprendre une promenade en barque. À Bréa, où la végétation est toujours précoce, les touffes épaisses du burlet, cette plante grasse qui s'attache en capricieuses guirlandes aux toits de chaume et aux vieilles murailles, se préparaient à fleurir, et les mousses renouvelées verdissaient le rocher lui-même. Étendu dans la barque qui glissait sur la mer, figé pour ainsi dire en un miroir d'or poli où se reflétaient les masses perpendiculaires de granit comme autant de citadelles isolées, j'éprouvais ce sentiment de bien-être qu'apporte le printemps et que le moindre brin d'herbe doit avoir en commun avec nous. La vie semble facile et bonne, on la subit passivement, délivrée de toute inquiétude, de toute pensée étrangère. Un bruit lugubre me réveilla tout à coup. C'était les vêpres des morts lamentablement psalmodiées d'une voix pleine de sanglots qui ne pouvaient partir d'aucune église. Elles s'élevaient de la mer, s'éteignant par intervalles, perdues dans la distance, puis éclataient, portées par le vent, avec une nouvelle et sauvage énergie. On eût dit des plaintes d'âmes en peine. J'interrogeai mon matelot, brave garçon qui répondait à un nom épique digne de la table ronde, Tanguy. Il m'apprit l'édifiante transformation du violoneux. « Ce sont des idées qui ne viendraient jamais à un marin, » ajouta-t-il. « On a grand tort de rester toute sa vie arrimée au même cap. L'ennui vous assote. Je sais bien qu'il a eu des chagrins, qu'il n'en a pas. Il faut laisser pleurer les femmes et prendre son parti. Allez, ce qu'il regrette le plus, c'est son violon. Il l'aimait comme j'aime mon bateau. Mais si je perdais mon bateau, ce n'est pas le jeune qui me consolerait. Ce pauvre Job ne vit que du lait de ses vaches et du pain que lui apporte, quand la mer le permet, les petits chevriers qui viennent faire brouter leurs bêtes à la vraie. » Tout en parlant, il ramait, nous approchions de l'île, et la voix de son unique habitant résonnait plus distincte à mes oreilles. Il venait d'entonner sur un rythme étrange le vieux chant trégorois, contemporain, dit-on, de Merlin l'Enchanteur. « Quand le soleil se couche, quand la mer s'enfle, je chante sur le seuil de ma porte. Quand j'étais jeune, je chantais. Devenu vieux, je chante encore. Je chante la nuit, je chante le jour, et je suis chagrin pourtant. Si j'ai la tête baissée, si je suis chagrin, ce n'est pas sans motif. Ce n'est pas que j'ai peur, je n'ai pas peur d'être tué. Ce n'est pas que j'ai peur, assez longtemps j'ai vécu. Peu importe ce qui arrivera, ce qui doit être sera. Il faut que tous meurent trois fois avant de se reposer enfin. Mais, dis-je, ce n'est point là un chant chrétien. Bon, répliqua mon matelot. « Croyez-vous qu'il s'en soucie? Il prend ses champs de mort où il peut. Si nous abordions, pour lui parler, il ne répondrait pas. Quoi qu'en dise ses litanies, tout lui fait peur. Il y a quelque temps, un voyageur anglais à qui l'on avait raconté son histoire s'est fait conduire à Lavray exprès pour lui promettre un violon neuf et un bon, comme il n'en avait jamais eu, s'il voulait renoncer à cette existence oisive et stupide. Voyez-vous, les Anglais sont des hérétiques qui ne comprennent pas qu'on se martyrise. Job a fait un grand signe de croix et a juré depuis, paraît-il, de ne plus engager de conversation avec aucun étranger. Vous perdriez votre temps à raisonner. » Et Tanguy fit force de rame, comme s'il se fût agi de fuir la peste. « Nous n'avons rien de bon à prendre ici. » Les lamentations s'affaiblissaient toujours, elles ne nous arrivaient plus que par lambeaux. Notre barque, en regagnant le port, passait au pied de la masse abrupte du Guercido. Je crus reconnaître Janny qui se tenait debout, abritant d'une main ses yeux fixés sur la mer. « D'ici pourtant, elle ne peut pas entendre, » dit mon matelot. Mais tous les jours, à l'heure où il crie ses prières, on la voit au mur du château. Dans les premiers temps, il y avait beaucoup de monde avec elle, mais tout s'use, et après s'être tant occupé de Job, on ne sait quasiment plus s'il existe. Janny Kerlanou n'est pas comme les autres. Cette fille-là n'oublie point qu'il lui a fait du bien. C'est justice à lui rendre, et on en pourrait dire autant de beaucoup de gens honnêtes.